Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
L'hymne à la daube, le podcast qui aspire à l'abolition de l'idée de bons et mauvais goûts musicaux, parce qu'il est temps de rendre ses mérites à la musique en général. Pour ce 11e épisode, j'ai le plaisir d'accueillir l'auteur, compositeur et interprète stéphanois d'origine, Fiskara. Avec un premier disque paru début 2020 intitulé Volume, Fiskara s'est présenté comme artiste polyvalent et généreux et n'a pas traîné pour sortir l'album Fiction la même année. En 2021, Fiction ressort en version acoustique et il semblerait que ce ne soit que le début pour Fiskara. Comme dit précédemment, Fiskara a sorti l'année dernière le très bel album Fiction, dont est tiré un titre. Un titre avec lequel j'ai longuement bassiné notre artiste du jour en lui rappelant dès que l'occasion se présentait combien j'aimais ce titre. Ce titre, Mes aïeux, s'intitule Sous ma peau.
T'es plus précise que le miroir, toi tu vois sous ma peau. Je peux pas faire autrement. Tu vois sous ma peau. Je peux pas faire autrement. Tu vois sous ma peau. Mais qui vivra verra. J'ai l'œil dans la médaille.
En plus d'être un artiste accompli dans son œuvre personnelle, il se trouve que Fiskara a contribué à la grande beauté de quelques textes du dernier album de l'impératrice, Takotsubo, que vous connaissez normalement déjà bien. Et dans la réédition de son album Fiction, vous pouvez trouver notamment le titre Petit Pan.
De retirer full cash. Assis sur le petit banc des morts jeunes, je t'écoute sans les sous-titres. Un petit pan de mur jaune, je m'écroule devant les urgences. Suis-je mort à jamais? Si oui, tu mourras jamais. Suis-je mort à jamais? Si oui, tu mourras jamais.
Et bah salut Fiskara.
Salut, tu vas bien Raphaël?
Bah ça va et toi?
Bah ça va, je suis en pleine forme.
Ah bah ouais, je vois bien ça. Écoute, j'en profite pour te demander, quelle est ta daube du jour?
Ma daube du jour, c'est très simple, ça tient en deux mots, c'est Ti Amo. C'est une chanson de Umberto Tozzi, qui a été coécrite et produite par Giancarlo Bigazzi, et est sortie en 1977.
Il y en a qui travaillent mieux que d'autres sur ce podcast.
Effectivement, on a tout noté.
Écoute, je saurais pas te dire pourquoi, mais ça me rend heureuse que t'aies choisi cette chanson.
Super.
Parce que c'est une chanson que je connais, mais que j'aime bien, tu vois, mais qui est pas un immortel de mon côté. Mais je sais pas, pour moi en fait, c'était dès que tu m'as dit que t'avais choisi ça, pour moi c'était la daube évidente qui manquait un petit peu, quoi. Je me suis dit il faudrait que quelqu'un en parle et que t'aies choisi ça, ça me rend trop contente.
Ok, très bien. Alors je t'explique un peu pourquoi j'ai choisi cette chanson.
Voilà, je vais te demander pourquoi.
En fait, je suis de culture italienne, ma famille maternelle et italienne, et d'où le nom Fiskara, comme on connaît l'anecdote certainement. Moi cette chanson en fait je l'ai pas connue en fait au sein de ma famille, puisqu'on écoutait quand même plutôt des chansons un peu plus intéressantes comme celle de Paolo Conte par exemple, même s'il y avait beaucoup de musique des années 90-2000 avec Laura Pausini, avec Eros Ramazzotti. Donc, qui auraient pu être des daubes que j'aurais pu choisir aussi,
ouais.
Mais qui sont quand même plus proches de nous et donc peut-être mieux produites quand même. Là, Ti Amo, c'est quand même l'essence un peu de la chanson de slow qu'on danse au collège, quoi,
ouais.
Au bal de promo.
Ouais.
Et voilà, peut-être on aura l'occasion d'en parler un peu tout à l'heure, mais c'est comme ça que je l'ai découverte en fait.
Et bah ouais, surtout j'allais dire c'est exactement le genre de chanson sur laquelle on aurait pu danser des slow. Alors si on était invité à danser des slow, parce que c'est pas le cas de tout le monde. Je parle de moi ici.
Okay. Alors moi c'était pas mon cas non plus, mais j'ai tenté de prendre mon courage à deux mains au bal de promo du collège.
Sur Tiamo ?
Sur Tiamo.
Putain, mais justement, voilà, pour nous, en fait, alors je sais que ça date, comme tu l'as dit, de 77, mais elle a marqué notre génération parce que notre génération a été marquée par Astérix Mission Cléopâtre, dans laquelle cette chanson intervient.
Absolument, absolument. D'ailleurs, c'est une scène mythique. Je crois que c'est Astérix qui a un coup de foudre absolu pour...
Sur Dimiokis.
Ouais, voilà, exactement.
Et ça tombe sur cette chanson, exactement.
C'est assez extraordinaire. Astérix Mission Cléopâtre, ouais. Alors, je crois que j'ai découvert la chanson avant de voir le film.
Ok.
Et en fait, bon, on peut parler un peu vite fait de la chanson, ce qui est hyper intense. Moi, je trouve d'abord, fondamentalement, c'est que c'est une chanson qui expose son thème direct. Ça rentre comme ça avec la batterie, mélodie de ritournelle. Et en fait, j'étais perforé par cette chanson. Là, je romance un peu, mais je crois vraiment que ça s'est passé comme ça. J'étais en troisième au collège, dans la région de Saint-Étienne, de là d'où je viens. Et j'étais assis, un peu comme tous les garçons, sur une chaise en dur. Il commençait à être 23h, on commençait à être fatigué. On a bu de l'Oasis, certainement, puisqu'il n'y avait pas d'alcool au bal du collège. Et j'entends Tiamo dans les enceintes. Et là, je me dis, il faut absolument que j'invite cette fille qui me plaît depuis le début de l'entrée en troisième. Et donc, je me souviens plus d'ailleurs comment elle s'appelle. Mais big up à elle. Oriane, c'est bon, je m'en souviens.
Big up Oriane.
Et donc je j'y vais comme ça et je lui propose de danser un slow. Je sais pas du tout comment danser un slow. D'ailleurs, je pense que je devais avoir les mains autour de ses épaules et elle les mains autour de mes hanches, ce qui est complètement l'inverse en fait du principe de la danse de slow.
C'est progressiste.
Exactement. Merci beaucoup. Je suis ravi de te l'entendre dire. Et voilà. Et donc en fait, on danse un slow sur Tiamo et c'est exceptionnel. Donc c'est vraiment un très beau moment de ma jeunesse. Quelques heures plus tard, ouais, il m'a dit oui. Ça,
déjà.
C'est quand même assez énorme. Mais quelques heures plus tard, elle est partie sans me faire de bisous et je l'ai pris en fait comme une déception absolue. Donc mon premier chagrin d'amour.
Oh ouais. Non.
Voilà. Mais Tiamo a participé du bon souvenir que j'ai quand même de ce bal de promo. Ouais.
Ça représente déjà le oui, l'accord et la danse avec Oriane, bah, bien sûr.
Absolument.
Ah ouais, c'est beau. Mais alors, justement, donc, je pense que l'idée générale qu'on se fait de cette chanson, c'est que, bon, déjà, elle est en italien. Il n'y a pas les Italiens. Chez nous, c'est quand même très vite connoté archi-romantique, etc. Quoi.
Ouais.
Et pour nous, Français, qui n'écoutent tombe pas spécialement les paroles ou qui ne les comprenons pas, c'est la chanson de rêve absolu de l'amour fou, quoi. Mais c'est vrai que si on s'attarde un petit peu sur les paroles, il semble y avoir un petit problème.
Bah, en fait, moi, si tu veux, au niveau des paroles, j'ai noté un peu quelques trucs. Déjà, le nom de l'album, je le trouve hyper intéressant. Nell'aria ti amo. Peut-être tu peux traduire.
Dans l'air, je t'aime.
C'est dans l'air, je t'aime. Ouais. Ça pourrait être une phrase de Fabrice Luchini, parce qu'on sait qu'il aime beaucoup l'émission C'est dans l'air sur France 5. Du coup, le titre de l'album, je le trouve déjà trop drôle. C'est dans l'air, je t'aime. Il y a un truc comme ça, justement, de espèce d'effervescence italienne, tu vois. C'est dans l'air, c'est comme ça. L'amour est partout. Bon, le titre de la chanson, évidemment, il parle de lui-même. Mais en fait, c'est surtout le début des paroles, moi, qui me fait marrer. Donc déjà, les premiers mots de la chanson, c'est « ti amo, un soldo, ti amo ». Donc littéralement, « je t'aime », une pièce de monnaie, enfin un sou, « je t'aime ». Et en fait, ce qui m'intéresse beaucoup là-dedans, c'est que déjà, il y a cette référence à la monnaie, parce qu'on comprend en fait juste après qu'il va jouer à pile ou face, et qu'il y a ce truc de... en italien, c'est « testa o croce », et c'est la tête ou la croix, parce qu'en fait... Dans les lyres italiennes, c'était d'un côté un visage et de l'autre côté l'écusson avec la croix.
Ok.
Voilà, petit fun fact du jour.
Très intéressant.
Qui m'a été raconté par mon grand-père, Giuseppe, qu'on
big
salue
up.
Aussi. Big up à Giuseppe. Et voilà. Et en fait, à un moment donné, donc il fait ça, ti amo, un soldo ti amo, et ensuite il dit, se viene testa, vuol dire che basta, lasciamoci, ti amo. Donc littéralement, si c'efface, ça veut dire que ça suffit, on se quitte. Donc en gros, on comprend qu'il va laisser son amour au hasard et que et qu'il va jouer à pile ou face avec cette madame, puisqu'on comprend que c'est une madame dans, mmh. dans la chanson. Voilà, il va laisser son amour au hasard. Je trouve ça quand même assez beau
ouais.
Dans la première partie du son,
mmh.
Sachant que ça vient juste après une intro qui est assez folle.
Ah ouais.
Puisque donc on a toute cette énergie de batterie et de ritournelle, comme je l'ai dit au début, mmh. et ensuite il y a une espèce de crossfade, une espèce de fondu qui arrive sur un piano électrique, langoureux comme ça, avec un son très très bien mixé, parce que les anciens avaient vraiment un, enfin comment dire, un savoir au niveau du format et au niveau des, enfin on est dans les années 70, enfin 77. À côté en Italie, si on regarde à côté ce qui se passe, c'est vraiment un truc de ouf. Il y a Giorgio Moroder qui fait tous les méga hits de disco, d'Italo disco. Il y a Ennio Morricone qui fait de la musique de film exceptionnelle.
Ouais.
Et en fait, c'est un peu le trio qu'on a en France dans les années 70 ou 80, de Umberto Tozzi qui est le gros chanteur de variette, Ennio Morricone qui est un génie de la musique de film, et Giorgio Moroder qui fait danser tout le monde, quoi.
Ouais, d'accord.
Et je trouve que, enfin, il y a ce truc intéressant de trio comme ça d'Italiens qui arrivent un peu partout en Europe, en fait, pas en France, parce que je crois que j'ai vu, selon source de Wikipédia, que Tiamo est resté genre 7 mois
ouais.
numéro 1 en France, quoi.
J'ai vu la même chose, ouais, exactement.
Et d'ailleurs, un peu plus étrange, en Suède aussi.
Ouais.
C'est resté numéro 1 super longtemps.
Ouais.
Et t'as le truc, c'est quand même le pays d'Abba, tu vois.
Ouais.
Avec qui Giorgio Moroder a bossé. C'est le pays de l'Eurovision aussi, tu vois.
C'est vrai.
Et d'ailleurs, Umberto Tozzi a fait l'Eurovision, genre, un peu après, dans les années 80, en 84.
Ah, génial, ouais, ça.
Avec Gente di Male.
Ah oui,
une très belle chanson.
Ok, ok.
Mais qui n'a pas gagné, malheureusement. 84, je sais pas qui a gagné, enfin je suis pas spécialiste de l'Eurovision.
on annule.
Mais en tout cas, c'est assez marrant parce que tu vois, la Suède qui est quand même la terre de la pop musique, parce que j'ai l'impression que c'est un peu qu'ils l'ont inventé avec ABBA, quoi. Ça a super bien marché, tiens.
Ok, c'est intéressant. Mais comme tu dis, c'est vrai que cette introduction, elle a ce pouvoir, vraiment, ça commence, et ça y est, tu te retrouves dans un bain avec des pétales de rose, quoi. avec l'être aimé, quoi.
Exactement. Non, mais bien sûr. Ouais. Mais c'est même pas métaphorique, hein, c'est dit direct, tu vois, premier mot, Tiamo, quoi. Et puis même le clavier parle avant la parole. Donc ça, j'aime bien aussi, l'espèce de prosodie qu'il y a dans toutes les textures des instruments qui sont toutes rondes, ça dégouline d'amour.
Ouais.
Même dans toutes les chansons de Tozzi dans cette époque-là, c'est tout, c'est Gloria.
C'est ça, ouais.
C'est Donna Amante Mia, c'est genre vraiment que autour du même sujet qui est l'amour dégoulinant de chair absolue. pas du tout Baudelaire, pas du tout français,
non.
Pas du tout. Enfin, c'est vraiment l'Italie totale, quoi.
C'est du kitsch à l'état pur, un peu, quoi.
Du kitsch à l'état pur, exactement.
Mais alors moi j'avais l'impression quand même que c'était aussi un peu une chanson de reconquête d'un côté, parce que comme tu dis, il y a cette dualité. À un moment donné, il dit, je crois, ti odio ti amo, donc je te déteste, je t'aime.
Exactement.
Mais j'ai l'impression que il y a eu une histoire. Comme tu dis, il va la jouer à pile ou face, mais c'est qu'il y a eu une espèce de souci quand même, à un moment donné, dans cette relation.
Bien sûr, sinon il n'écrirait pas des atrocités, comme... on en parlera juste après, mais vas-y, finis.
non, mais c'est ça, c'est vrai que j'ai l'impression que son cœur balance, mais t'as pas l'impression que c'est forcément pour les bonnes raisons. Et alors vas-y, dis-moi, qu'est-ce que t'as relevé comme atrocité?
Bon, alors quand je te dis des atrocités, au début ça va. Donc déjà, on va voir que c'est pas si simple niveau narratif, genre... Comme tu dis, on comprend qu'il y a un problème, mais bon, premier couplet, ti amo in fondo un uomo che non ha freddo nel cuore. Donc, je t'aime, au fond, un homme qui n'a pas froid au cœur. Après, il dit, nel letto comando io.
Oui.
Dans le lit, c'est moi qui commande. Bon, ça peut faire débat. Ça peut beaucoup faire débat, même. Ma tremo davanti al tuo seno. Mais je tremble devant ton sein. Donc, dans le lit, c'est moi qui commande, mais je tremble devant ton sein. Bon. Franchement, là, il y a même pas de commentaire à faire. Enfin, on peut en faire, on peut débattre, mais je ne comprends pas le sens de cette phrase.
Non.
Ni en italien, ni en français, d'ailleurs. Et ensuite, c'est là qu'arrive ti odio, ti amo. Donc là, on comprend qu'en fait, à un moment donné, il s'est passé un truc et c'est d'origine, certainement, probablement, sexuelle.
Ouais.
Voilà.
Ouais, bien sûr. Bah, c'est vrai que t'as un petit peu envie de dire, bon, ok, c'est toi qui commande au lit, mais enfin, si elle est consentante pour que tu aies ce rôle-là, déjà.
Exactement.
Et oui, alors, j'ai peur devant ton sein. Alors moi, j'aurais dit peut-être, mais peut-être parce que j'essaie de sauver la chanson en la romantisant, donc une espèce d'émotion forte à la vue de cette femme nue qui... tu vois, qui l'émerveillerait tellement qu'il peut-être le lui ferait peur, quoi, le pas l'angoisserait, mais l'impressionnerait beaucoup, quoi. Mais c'est vrai que bon, c'est j'avais buté aussi sur ces paroles là.
C'est assez étrange parce que du coup il y a ce truc tremo davanti al tuo seno, je tremble devant ton sein, qui est lié peut-être à une phrase qui est juste après. Et una farfalla che muore sbattendo le ali, c'est comme un papillon qui meurt en battant des ailes. Je fais une traduction littérale un peu étrange, mais en gros, il y a le côté éphémère de l'amour, le côté assez terrifiant de la passion, qui a rejoint ce truc de pile ou face et tout. Donc moi, finalement, c'est pas les paroles qui m'ont le plus choqué, à part effectivement cette phrase à propos du lit qui est quand même très border.
Étrange.
Et on rappelle que le sens moral ici voudrait qu'on réagisse.
Exactement. Voilà.
Mais c'est pas le pire. C'est pas le pire parce que après, on comprend vaguement qu'il y a une scène de chambre. Donc il y a un truc avec le vin. Il parle tout le temps de vino leggero.
C'est
bon, ce truc. On imagine que c'est une chambre et que on boit du vin, on est un peu oubliac. Et donc voilà, mais c'est pas grandiose. Et après il y a une phase complètement surréaliste. Je lis l'amore che lei tosi fa prendi mille altre metà, c'est très beau. Oggi ritorno da lei, primo maggio su coraggio, io ti amo e chiedo perdono. Ricordi chi sono, apri la porta un guerriero di carta igienica. En gros, je traduis là, ce qu'on vient de faire.
Vas-y.
L'amour que l'on fait dans un lit, prends-moi l'autre moitié, bon, pourquoi pas.
Ok.
Aujourd'hui, je retourne vers elle, 1er mai, allez, courage. Alors, déjà, c'est, parle de quoi, là? Le 1er mai, je le rappelle pour tous les auditeurs, c'est la fête du travail.
Ouais.
De partout, ouais. Internationalement. Qu'est-ce que ça veut dire?
Qu'est-ce que tu fais?
Aujourd'hui, je retourne vers elle, 1er mai. Voilà. Je sais pas ce que tu comprends, toi, de, primo maggio su coraggio. Moi, je t'aime et je te demande pardon.
Alors, c'est vrai que j'ai pensé tout de suite, effectivement, à la fête du travail. D'ailleurs, c'est beau parce que ça nous concerne. Là, au moment où on est en train d'enregistrer ce podcast, c'était il n'y a pas très longtemps, cette fête du
oui,
travail.
Oui, c'est vrai que nous sommes le 4 mai.
Mais je me suis dit, est-ce qu'il veut pas plutôt dire c'est le jour du muguet, tu vois?
Ah, ok, peut-être le jour du muguet. Ouais.
Parce que je ne vois pas de rapport avec la fête du travail. Par contre, bon, le muguet, les fleurs, le printemps.
Ouais,
et tout.
Ok, je vois l'idée. Ouais.
Il parle pas de primavera à un moment donné, histoire non, de dire c'est le printemps.
Mais j'avais entendu à un moment donné primavera quand j'étais gamin. J'avais l'impression qu'il disait ça. Finalement, il y a pas du tout le mot primavera.
Il y a zéro printemps.
Il y a pas de printemps. pas de printemps pour Marnie et pas de printemps non plus pour Teddy. Mais donc je continue. Là, il y a cette phrase complètement surréaliste. Ricordo chi sono. Apri la porta a un guerriero di carta igienica e dammi il tuo vino leggero. Souviens-toi de qui je suis. Ouvre la porte à ce guerrier de papier toilette.
Mais c'est bizarre, ça.
Moi, je le comprends comme ça. Et donne-moi ton vin léger.
Je suis perplexe. Parce que c'est vrai.
Qu'est-ce que fait ce guerrier de papier PQ. De PQ dans cette chanson? Qui est-il?
Est-ce que toi, justement, qui est...
Alors, mon interprétation, je vais vous la donner.
Voilà, qui est Rital et qui le reste.
Je vais vous la donner. C'est que pour moi, il parle d'un gosse. Il parle d'un enfant qui fait des jeux avec du papier toilette et dont on comprendrait, en fait, qu'il est le fils ou la fille de cette dame. Et que peut-être toute la problématique autour de... qui essaye en fait de, enfin qui transpire là autour de cette chanson,
ouais.
Ce serait en fait que il n'accepte pas l'enfant de cette dame. Et donc il y a eu une problématique autour de ça. Et
ouais, voilà. c'est pas bête en tout cas.
C'est pas bête, mais je pense que je vais très loin.
Franchement, t'as le droit d'aller aussi loin que tu veux.
J'essaie de faire la psychanalyse du texte. Et
c'est intéressant parce que je me dis peut-être que la peur du sein pourrait être plus justifiée. La peur du sein maternel, tu vois, ce genre
peut-être,
de choses.
Peut-être effectivement qu'on pourrait.
Ça me dégoûte un peu quand même, je dois dire.
Ouais, là c'est un peu chaud parce qu'effectivement je tremble devant ton sein, puis ensuite on a ce truc ouvre la porte à un guerrier de papier toilette. Qu'est-ce que c'est que ce truc?
Il est étrange quand même.
Et parce que après, oui, voilà, c'est ça qui m'a fait me dire ça. Dammi il sonno di un bambino, donne-moi le sommeil d'un enfant. Et peut-être que mon cerveau a fait une sorte de comment dire, saut qualitatif.
Ouais.
Comme dirait Gilles. voilà. En tout cas, on ne comprend rien à ce deuxième couplet. Et de toute manière, la force de cette chanson réside pas dans les paroles.
On est d'accord.
Plutôt dans le thème et dans l'interprétation que Umberto Tozzi, puisque c'est quand même un grand interprète.
Oui.
Et voilà.
Je suis d'accord. Alors justement, si on faisait abstraction des paroles, donc je sais pas à quel moment effectivement t'as pris conscience de ce texte en tout cas. Mais est-ce que déjà c'est une chanson que tu écoutes encore à l'heure actuelle ? Ça t'arrive de l'écouter ?
Alors ça m'arrive complètement d'écouter. En fait, pas forcément Tiamo, mais j'écoute du Umberto Tozzi,
okay.
Notamment Gloria,
okay.
Qu'on écoute de temps en temps avec Francis. déjà pour s'inspirer des placements de l'époque, parce que c'était vraiment de la grande pop musique au niveau des placements, au niveau des textures,
mm-hmm.
Même si c'est pas du tout moderne, ça fonctionne quand même. Ça fonctionne quand même à l'heure actuelle, quoi. C'est des choses, ouais, qui peuvent repasser en soirée, dans des mariages, et puis ça peut, enfin, je veux dire, soulever un peu des foules quand même. Franchement, ouais. Si tu me joues ça dans un stade. Moi, je suis complètement en train de brailler les paroles. C'est sûr,
oui, oui, bah toi, t'es pris en slam comme au mariage de Team Dove.
Comme au mariage de Team Dove, voilà.
Un ça, beau moment.
Très belle private, un très beau moment. mais voilà, j'écoute donc plutôt Gloria et plutôt Tout, qui est une très belle chanson aussi.
Tout, elle est bien. Ouais.
Et dont les paroles sont beaucoup moins problématiques que cette phase sur Tiamo. Mais voilà, Tiamo, de temps en temps, ça m'arrive de l'écouter.
Ouais.
Et je trouve déjà le format... Ça me permet de parler un peu de l'ère actuelle de la musique. Les formats ont tellement changé, on fait des morceaux de 2030, 2045. Ça, c'est quand même une chanson qui dure 4 minutes 10.
Elle n'en finit
pas. Immense, c'est immense. Et en fait, depuis cette introduction, donc, qui est ultra ouverte avec la ritournelle, avec la belle intro qui se met en place pendant au moins 8 mesures, lui qui chante, et tout le long de la chanson, ça va être une montée comme ça, exceptionnelle, vers, en fait, les retrouvailles avec, cette énergie, donc avec les chœurs à la fin qui, ouais, chantent dans tous les sens, les belles harmonies. Bon, c'est un super thème. Et je trouve que le format de 4 minutes 10 fonctionne hyper bien,
oui,
et, que
oui.
et que ça pouvait être un single à l'époque. Je trouve ça super beau.
Oui,
que
oui,
ça ait pu,
vrai,
être un single. C'est super beau.
Qui a si bien marché en plus. Mais c'est vrai que t'as raison, c'est pas du tout la formule couplet-refrain, puis une espèce de mélange ou je ne sais quoi. C'est un truc qui progresse, quoi, tout le long,
mais
jusqu'à l'explosion de ces mots-là, Tiamo, etc.
C'est ça, mais surtout que j'ai vérifié, il n'y a pas eu de radio-edit. En fait, le 45 tours a été diffusé comme ça à la radio. Et d'ailleurs, bah, c'est une chanson qui a été reprise vraiment parfaitement... en accord avec le texte, puisque c'était enfin, ça a été réécrit, mais en français, par exemple, par Dalida.
Exactement.
En 95, d'ailleurs, oui, qui est l'année de ma naissance.
Allez!
Et, comme quoi je suis lié à cette daube, de manière très personnelle.
Elle le savait.
Et donc voilà, la radio, ça passait comme ça, sur 4 minutes 10, avec ses envolées et tout, donc c'était très beau quand même.
Ouais, ouais, c'est incroyable.
C'est une sacrée époque.
Ouais, ouais, carrément.
Voilà.
Alors cette chanson qui est quand même assez forte, effectivement, je me demandais si tu étais le genre de personne qui va écouter des chansons en fonction du contexte de ta vie. Est-ce que en tombant amoureux, en étant dans l'état où voilà, tu t'es dans l'état un petit peu de noce où tu es en train de tomber amoureux, ou alors tu es en train de te mettre avec une personne, etc. Est-ce que tu vas écouter Tiamo, ou est-ce que tu vas plutôt écouter Tiamo en mode gros kiff, sorti d'un contexte, parce que bon, justement, tu t'y rattaches pas spécialement.
Alors, je suis plutôt la seconde version.
Ouais. T'es pas premier degré avec
Non,
Tiamo.
Je suis pas premier degré, mais je suis premier degré avec certaines choses. Par exemple, je te raconte ma soirée d'hier.
Allez.
Très rapide. J'étais avec certains copains. La prochaine fois, tu le seras, c'est sûr. Vu comme tu le prends.
Il y a pas de problème.
Non, mais du coup, fin de soirée, on arrive, on boit un petit verre d'amaretto, parce que évidemment, on est premier degré avec ces choses-là.
Bien sûr.
Et on se met le dernier album des Arctic Monkeys, Tranquility Base Hotel and Casino, que je trouve exceptionnel. Je vois dans tes yeux que tu es fanatique.
C'est le meilleur.
C'est le meilleur, on est d'accord.
Meilleur.
C'est le meilleur. C'est l'apogée,
c'est un chef-d'œuvre.
C'est un chef-d'œuvre absolu. Et donc, Star Treatment commence.
La première. I just wanted to be one of the Strokes.
Voilà, première prise de parole d'Alex Turner. I just wanted to be one of the Strokes. J'aurais bien aimé que Tiamo soit aussi bien écrite que cette chanson. et si c'était le cas, je pense que je l'écouterais vraiment,
ouais,
en boucle. Mais voilà, tu bois un petit verre d'amaretto en fin de soirée, tu mets les Arctic Monkeys, faut rester quand même dans les basiques. Mais après, j'ai tendance à avoir une consommation de la musique qui est quand même très sortie de son contexte. Et je peux passer surtout je peux faire les montagnes russes, je peux écouter Cardi B et puis ensuite écouter Leonard Cohen.
Oui.
Ça, c'est un truc qui est assez classique dans mon Spotify. J'écoute vraiment des trucs complètement différents et je passe de l'un à l'autre. Et j'ai aussi, en fait, ce qui est assez étrange, c'est que c'est le premier podcast que j'enregistre avec toi, mais j'écoute aussi beaucoup de podcasts, notamment des podcasts de Radio France.
Ok.
J'aime beaucoup Les Pieds sur Terre ou Les Chemins de la Philosophie ou Pop & Co. Avec Rebecca Manzoni. Donc finalement c'est assez, enfin ce que j'écoute dans la journée, je pense que je dois passer peut-être au moins 10 heures à écouter du contenu sur 24 à écouter de la musique ou des podcasts, et j'écoute aussi beaucoup de paroles quoi.
OK, d'accord.
De blabla.
Ouais.
Comme dirait ma mère.
tu consommes absolument quoi.
Exactement.
D'accord. Donc le premier degré de temps en temps, mais pas dans ce cas-là quoi.
Pas dans ce cas-là. Non, Tiamo, ouais, par exemple, en la réécoutant là tout à l'heure, je me disais waouh, c'est pas du tout le contexte quoi.
J'étais c'est
juste
pas
en train
possible.
De fumer une clope et tout. genre chaud quoi. Mais comme je te dis, le mythe fondateur de ma rencontre avec Tiamo, c'était le bal du collège, le bal de promo.
Qui était quand même un contexte d'amour.
Qui était le contexte absolu.
Ouais.
Et d'ailleurs, je remercie le DJ ou la DJ, qui d'ailleurs devait être une playlist, en fait, sur une clé USB
oui.
de l'époque, de 1 giga, avec 4 morceaux qui tournaient en boucle. Mais voilà, c'était ça, en fait. C'était le contexte absolu. Donc, je suis très content d'avoir vécu ce moment. Maintenant, j'essaye pas de le réitérer, non, effectivement.
Non, mais tu l'as en toi.
Parce qu'on sait comment ça s'est fini, si vous avez bien écouté le début du podcast.
Mais tu lui as pas reparlé après?
Je crois par SMS, et puis finalement, on s'est rendu compte que
c'était non,
ça
n'avait
pas fonctionné, c'était non. Donc, je l'ai pas assisté, évidemment, c'est sans, deuxième sens moral de...
N'est-ce pas, Umberto?
On va pas insister, Umberto.
Exactement.
Juste, je tiens à soulever que j'ai réentendu cette chanson il y a pas très longtemps dans La Casa de Papel. C'est au mariage de Berlin, y a Tiamo qui passe, et d'ailleurs je crois que c'est une version espagnole. Il me semble que je l'ai pas entendu en italien, ou alors je dis n'importe quoi, mais je crois que c'est une reprise en espagnol de Tiamo.
Et est-ce que ça dit quand même Tiamo comme Dalida
dit
Tiamo?
Tiamo je crois.
Ah ouais, OK.
Ça dit Tiamo.
Bah ouais, c'est plus facile pour eux de dire ça que nous de remplacer par je t'aime, tu me diras, c'est vrai.
Ouais. D'ailleurs on a une chanson qui s'appelle Je t'aime en France, mais qui est aussi une daube. Qui est peut-être une chanson de Lara Fabian ou d'Hélène Segarra,
c'est Lara Fabian. Ouais. C'est Lara Fabian qui s'époumonne.
Qui s'époumonne,
voilà.
Bon, c'est quand même pas... au niveau de la texture et au niveau de la production...
Je suis d'accord.
Pas aussi intense et intemporel que Tiamo.
Oui, c'est exactement... C'est intéressant ce que tu dis, parce que comme on l'a dit, Lara Fabian s'époumonne en gueulant vraiment « je t'aime », quoi. Sur cette chanson, bon, personnellement, que je n'apprécie pas, mais enfin bon, qui a été un tube terrible, quoi. Umberto Tozzi, lui, dans Tiamo, il va s'enflammer un petit peu, mais il va pas gueuler, il va pas crier avec tous ses poumons, etc. Je trouve quand même que l'intensité de Tiamo, aussi bien dans son message, en tout cas dans le message que tu veux entendre, et même dans la chanson en général, elle est plus forte, elle est plus percutante, quand même.
Bien sûr, bien sûr.
Alors que,
mais en fait, je pense que la force de cette chanson, c'est cette mélodie de ritournelle.
Ouais, exactement.
Ouais, c'est ça, ça reste sur les 4 premières notes de la gamme. Tan, 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 ta, 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 ta. Et ça ne bouge pas. Et il a, en fait, cette espèce de culture italienne de, en fait, parler en mode tranquille, avec quand même sa voix rauque et tout de gros bonhomme des années 70. Mais voilà, de toute manière, sur toute sa carrière, il a réitéré ce côté-là, grand thème, grande batterie, lancinant. Et d'ailleurs, toutes ces chansons, je le disais tout à l'heure, mais c'est pas toutes ces chansons de cet album, c'est toutes les chansons de ces 30 albums studio.
Bordel.
Ne font que parler d'amour. Et il y a quand même des pépites dont je voulais vous parler, dans son œuvre, en fait, si on peut appeler ça une œuvre.
Mais bien sûr.
Je suis pas snob, mais quand même, il fait que parler de la même chose à un moment donné, c'est chiant.
Il est obsédé.
Il est obsédé. On a un truc en commun quand même avec Umberto Tozzi, c'est, on n'est pas nés de la même année, c'est sûr et certain, mais il est fan de Paul McCartney, et d'ailleurs, il me dit dans toutes ses interviews et tout, j'ai regardé un peu, et son rêve, en fait, ce serait de faire un duo avec Paul McCartney. Malheureusement, je pense que soit il a jamais eu le courage de lui demander, soit Paul a toujours refusé, bien que ça soit assez étrange, parce que Paul McCartney fait quand même pas mal de collabs avec plein d'artistes, et notamment de cet Acabila, parce que Umberto Tozzi, c'était quand même la fête du slip, quoi.
Complètement.
Et voilà, donc moi aussi, je suis assez fan de Paul McCartney.
Mais ça aurait été ton rêve de voir ça.
Franchement, ouais. Franchement, ouais. Et d'ailleurs, faire un trio avec Paul McCartney ou Umberto Tozzi, je pense que ça serait
assez grandiose. Là, tu peux mourir après.
Là, je peux mourir, ouais. Enfin, voir Tozzi et mourir, je pense que c'est ça la phrase du truc. Voilà. Donc, c'était un peu les trucs que j'avais notés à propos des paroles.
OK.
Et de la musique, quoi.
Pour ta famille, italienne? T'es italien?
Ouais, en fait, de famille maternelle.
De famille maternelle, ok. Ouais. Mais t'as l'air d'être assez rattaché à cette culture-là, ouais, en tout cas, parce que, voilà, contrairement à moi, qui suis aussi d'origine italienne, mais pour le coup, j'ai très peu de connexion avec cette partie-là.
Okay.
Mais, est-ce que, alors, tu n'as pas découvert cette chanson-là dans le contexte de ta famille?
Non, comme je disais tout à l'heure.
Voilà, mais est-ce que ta famille, du côté italien, aime quand même Umberto Tozzi, et notamment Ti Amo? Est-ce que tu sais s'ils aiment ça, s'ils consomment ça?
Ouais, alors, bah, par exemple, la génération de ma mère, donc la génération juste du dessus, de mes oncles et de ma mère, oui, absolument.
Mm.
Ils consomment Umberto Tozzi, pas en boucle, évidemment, parce que c'était aussi une génération qui a connu, justement, la musique anglaise, le rock anglais, et même les chansons américaines, tu vois, t'as quand même des fans de Bruce Springsteen, t'as quand même des gens qui écoutent du rock. Mais Tozzi, ça revient quand même, tu vois. Je pense que si je passe, on va dire les quatre plus connus, que ce soit Gloria, que ce soit Tu, que ce soit Ti Amo, ça va chanter évidemment. Tu sais, ça connaît les paroles, c'est sûr. Et je pense qu'ils avaient les 45 tours.
Ok.
Beaucoup plus ça que justement des chanteurs français de cette époque-là, bah, typiquement Dalida dont on parlait tout à l'heure. Je pense que c'était moins dans la discothèque familiale, quoi.
D'accord, ok. Voilà.
Mais Tozzi devait y être, ça, c'est sûr et certain.
Et puisque tu as plus tu connais mieux, je pense, en tout cas, est-ce que tu crois que si j'avais fait ce podcast en Italie, Umberto Tozzi aurait été, cette chanson-là aurait été admise comme étant une daube? Parce que c'est vrai qu'en France, on aurait tendance à dire qu'elle est trop onirique, tu vois, elle est trop, en fait.
Ouais.
Du coup, c'est pour ça que, effectivement, je la valide en tant que daube, parce que elle est difficile à prendre en premier degré, quoi. Est-ce que tu crois qu'en Italie, ce serait pareil?
Eh ben, pour te figurer un peu la culture italienne telle que c'est, les actuels chanteurs italiens de pop, en tout cas de pop indé, genre Calcutta ou Nada, qui est une super artiste, ou les rappeurs, par exemple, Gali, Sfera Ebbasta, etc., se revendiquent plus de Celentano, par exemple,
oui, bien sûr,
qui arrive un peu après quand même. Enfin, en fait, il arrive au même moment, mais il perce plus tard. Même si c'est Celentano, c'est quand même 69, donc c'est quand même bien avant que Tozzi sorte, mais il est connu en France après, donc ils sont plus voilà, du côté de Celentano. Paolo Conte, qui est un super auteur aussi, qui a écrit Il cielo in una stanza, qui est une trop belle chanson, donc il se revendique plus de ces personnalités là de la fin des 60s plutôt que de Tozzi, parce que là tu sens qu'à partir de Tozzi on commence à dériver vers les Zucchero, Eros Ramazzotti, etc.
Ouais.
Donc oui, je pense que cette chanson est considérée comme une daube en italien, en vrai, pour de vrai. Okay. Et puis parce qu'on l'a trop entendue. En fait, finalement, une daube, c'est bien ça.
C'est
ça. Une chanson qu'on a trop entendue. Enfin, à part si t'es Daft Punk et encore, tu vois, je pense qu'il y a certaines chansons de Daft Punk qui bientôt deviendront des daubes.
Oui,
et
oui.
Tant mieux, on fera des podcasts là-dessus.
Bien sûr. Oui. En fait, c'est quand ça devient mainstream.
Je suis pas sûr de ce que je viens de dire.
Et franchement, tu l'as dit et je le garde. Donc okay. Trop tard. Non mais c'est ça en fait, oui, c'est la notion un peu du mainstream, mais voilà, et simplement aussi je voulais rajouter que c'est vrai que ça m'intéresse parce que tu disais que cette chanson tu y tenais mais pas tant pour sa portée en tout cas littérale dans le texte, quoi. C'est intéressant parce que tu es un des artistes que je reçois qui accorde une grande importance à ces textes. Pour
bien
toi
sûr.
Ça tient une grosse place. Alors je dis pas que c'est pas important pour les autres artistes, mais je t'ai entendu dire plusieurs fois que c'était peut-être même ce qui comptait le plus en fait pour toi.
Ouais, l'écriture c'est un des fondements de mon travail de chansonnier, parce qu'on dit comme ça en français, mais je préfère le mot songwriting, qui est cher à Leonard Cohen et à Turner et compagnie, puisque ce sont des songwriters, et Johnny Mitchell et Joan Baez pour équilibrer la parité.
Merci.
Et donc, de fait, le songwriting, c'est fondamental. En fait, c'est un texte plus une suite d'accords. C'est juste ça, une chanson. Et après, les arrangements, peu importe, tu vois, tu peux faire des arrangements à la Tozzi, mais tu peux faire des arrangements à la Laylo, ou à, j'en sais rien, quoi. Donc en fait, une chanson, c'est une chanson. Et le texte est important, et je pense, en fait, par exemple, pour parler de Ti Amo, que c'est une véritable chanson écrite au piano à l'origine.
Oui.
Puisqu'on parlait, d'ailleurs, on va lui rendre hommage, on va dire son nom avec l'accent, Giancarlo Bigazzi, Giancarlo de Goethe, puisque c'est lui qui a, je crois, arrangé ouais, Gloria, Tu, Ti Amo, Donna Amante Mia, et en fait qui est un super arrangeur,
ouais.
D'ailleurs qui n'a rien fait après, en fait il a arrangé juste les premières œuvres de Tozzi, après il a rien fait. Mais pourquoi, à mon avis, parce que une fois que tu deviens riche dans les années 80,
c'est ça.
Bah c'est bon, tu peux t'acheter 50 villas et
c'est
tu
ça.
Peux tu peux arrêter, quoi. Donc j'ai vérifié, il est encore vivant, Giancarlo.
OK.
Il a genre 69 ans, ce qui est pas beaucoup,
comme en fait. Umberto Tozzi.
Exactement. Et en fait tout ça pour dire que, ah oui, Umberto te dit avait 26 ans, je crois, quand il a sorti.
Ouais, il était très jeune.
T'as quand même un truc de...
Il avait ton âge.
Ben, c'est ça, il avait mon âge. Il a une voix d'ultra roublard, tu vois, genre ultra profonde et tout. Et j'aimerais bien que, voilà, mon album qui sort l'année prochaine fonctionne aussi bien que ce disque-là, quoi.
Ah bah, je te le souhaite, en tout cas, ça.
Comment on a dit Enelaria, trois petits points, ti amo. C'est dans l'air. C'est énorme. Il faut que j'envoie ce podcast à Lucky.
Ah bah oui, carrément. Ah oh bah carrément. Bah Fabrice, big up.
Fabrice, big up à toi.
Bah écoute, je crois qu'on peut remercier Umberto Todi et Oriane.
Bien sûr, et Francis évidemment qui nous écoute derrière.
Bonjour sur... Francis. Et bah merci beaucoup à toi, Fiscaram.
Merci beaucoup.
Au revoir.
À bientôt.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.